Rue de la Révolution est un podcast Fast-Kill, intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/fast-kill. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Rue de la Révolution, un épisode un petit peu spécial puisque pour fêter les 1 an du podcast, on a décidé de vous proposer un best-of de l'année écoulée et c'est donc la raison pour laquelle j'ai pris la place derrière le micro. Je suis bien évidemment accompagné de Mickaël Vincent qui est l'instigateur de ce podcast. Bonjour Mickaël.
Salut Fast-Kill.
Alors est-ce que tu peux nous présenter aussi tes acolytes parce que bien évidemment t'es pas tout seul sur ce podcast.
Non bien sûr, ça fait plaisir d'être dans le siège de l'interviewé pour changer un peu, ça soulage, c'est assez dingue. Bah bien sûr, Roland qui est avec nous. Bonsoir Roland.
Salut.
Et Nancy, bien sûr, mais qui a dû s'absenter malheureusement pour les 2 derniers épisodes pour des raisons logistiques, mais qu'on embrasse.
Alors avant d'attaquer ce podcast Best of, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots?
Je suis de profession économiste. Je suis surtout engagé dans l'associatif pour certaines causes. On en avait discuté d'ailleurs notamment lorsque tu avais eu la gentillesse de m'inviter dans ton podcast DLC. Au moment de la sortie de mon livre le banquier et le citoyen, et donc voilà, bon, je fais partie de ces personnes qui sont engagées dans plusieurs causes civiles, politiques, etc. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie, voilà, de dans cette diversité d'actions qu'il est possible de faire, voilà, de prendre aussi la parole avec ce podcast.
Et donc Rue de la Révolution, l'idée derrière le podcast c'était d'aller à la rencontre de gens qui se sont engagés de parler un peu de leur parcours et des raisons qui les ont poussés à cet engagement.
Ouais, c'est ça. Alors peut-être déjà la première anecdote qu'il faut relever, parce qu'on n'a pas trop insisté là-dessus, c'est que au départ Rue de la Révolution, c'est parce qu'on a enregistré ça chez moi, dans mon appartement, Rue de la Révolution, à Bruxelles. Donc le mot révolution, il s'est imposé de lui-même, mais surtout parce que d'abord c'était un endroit physique et pas forcément un appel au grand soir, puisque dans le podcast, évidemment, on invite des gens qui peuvent appeler au grand soir, mais on invite aussi aux gens qui préfèrent un engagement du quotidien ou une politique ou en tout cas un engagement des petits pas qui vont dans le bon sens et pas forcément des grands soirs. Mais ouais, l'idée, c'était une thématique qu'on avait développée sur l'épisode de DLC, ton podcast. J'invite les gens à réécouter si ça les intéresse. Et c'était un constat qu'on faisait en discutant toi et moi, c'était de cette polarisation, du fait que on entendait beaucoup de choses, qu'on avait certains freins aussi à l'engagement, on savait pas trop comment faire. Et donc l'idée derrière Rue de la Révolution, pour recréer un petit peu comme ça d'envie de s'engager, d'envie de discuter, de partager, c'était d'inviter des gens qui sont engagés au quotidien, mais pas forcément des gens connus, et puis pas forcément des gens engagés en politique, ça peut être dans l'associatif, ça peut être dans l'entrepreneuriat, des gens engagés, et puis surtout le fil rouge, de les interroger donc sur la raison de leur engagement, pour essayer comme ça d'avoir des... Tu sais, dans cette ambiance un peu morose, d'avoir des histoires un peu inspirantes, quoi, des exemples sur lesquels se raccrocher. Et puis, en deuxième partie d'émission, évidemment, une fois qu'on a un peu appris leur parcours et se rend compte que, en fait, l'engagement, c'est accessible vraiment à tout le monde, et ben on se concentre un peu plus sur la cause première, bien sûr, des engagements des invités.
Alors, évidemment, tout ça se passe de manière détendue. Hein. C'est un peu comme si on était au bar du coin, derrière une bière, en train de refaire le monde. L'idée est vraiment de garder quelque chose d'assez informel au niveau du ton et au niveau de l'entretien. Et pour renforcer ce côté informel, on a évidemment notre légendaire mythique quiz que nous prépare chaque mois notre inénarrable Roland.
Un quiz politique avec des chiffres et des pièges.
Des chiffres et des pièges.
Des chiffres et des pièges.
Alors moi, je tiens à préciser quand même que je ne fais pas que virtuellement boire une bière. Là, c'est l'heure de l'apéro. Il n'y a pas de souci. Hein.
Écoute, je vais faire pareil ici. Alors, le 12 janvier 2020 sort le premier épisode de Rue de la Révolution. Et pour ce premier épisode, on a reçu un monsieur qui s'appelle Boris Faure. Qui est Boris Faure, Mickaël?
Bah, Boris Faure, du coup, premier invité, donc un petit peu le parrain de l'émission, évidemment. Boris Faure, avant tout, c'est un ami, et je tiens à le préciser aussi parce que, bon, c'était le premier épisode, hein, forcément, on était un petit peu intimidés, on savait pas trop comment ça allait se passer, etc. Et donc, pour que ça se passe bien, on a préféré inviter ce qu'on pourrait communément appeler, voilà, un bon client, et puis surtout un ami. Et Boris Faure, donc c'est une personne que j'ai rencontrée, justement, dans mes différentes causes militantes, puisqu'il est lui-même engagé en politique. Alors, c'est un élu, avant tout, il est conseiller consulaire. Les conseillers consulaires, c'est plus ou moins l'équivalent des conseillers municipaux, mais rattaché au consulat, donc pour les Français Français de l'étranger. Donc il est conseiller consulaire à Bruxelles et il a été pendant très longtemps aussi premier secrétaire des socialistes chez les Français de l'étranger, ainsi que conseiller ministériel à un moment donné pendant le quinquennat, enfin pas le quinquennat, mais pendant le mandat de Jean-Marc Ayrault.
Et avec Boris Faure, on a notamment parlé violence et politique. Je vous propose qu'on écoute un extrait et on se retrouve juste après.
La politique, c'est l'affrontement, mais l'affrontement normalement régulé, organisé dans un cadre démocratique. Donc normalement, évidemment, on ne tape pas sur les autres. Et une fois l'élection passée, une fois que le verdict des urnes est rendu, eh bien, normalement, on se range voilà, derrière celui ou celle qui a gagné. Donc voilà, violence, mais régulée. Aujourd'hui, la violence, elle a un autre visage. Un visage évidemment beaucoup plus dérangeant, parce qu'on peut parler de violence un petit peu anomique, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de loi. On le voit dans la rue, mais on le voit, ce qui me préoccupe beaucoup plus, sur les réseaux sociaux. Mmh. Il y a de nouvelles formes de violence, c'est-à-dire la pratique du lynchage, de l'humiliation. Je crois que l'évitement du face-à-face, qui est consubstantiel aux réseaux sociaux, puisqu'on ne voit pas les gens qu'on a en face de soi, ou on les voit à travers des filtres, autorise en fait et permet toutes les transgressions. Et aujourd'hui, s'il y a de la violence, c'est que effectivement les règles sont transgressées. La règle, la première, c'est le respect de l'autre, y compris quand il ne nous ressemble pas. Donc en politique, l'adversaire ou l'opposant politique.
Alors on parlait de polarisation au début de ce podcast et c'est vrai que c'était probablement un des meilleurs sujets pour commencer Rue de la Révolution, c'était de parler de politique et de violence en politique, quelque chose que Boris avait expérimenté pour le coup.
Au sens propre du terme, c'est clair, en pleine face, non mais on en rigole, on sait qu'il a beaucoup d'humour donc il en rirait aussi, mais oui effectivement, parce que au-delà de la partie un peu plus théorique où on a essayé de mettre des mots sur la violence en politique, qu'elle soit exprimée dans la rue ou qu'elle soit exprimée par les gens de pouvoir eux-mêmes, entre eux ou vis-à-vis aussi du commun des mortels, avec une certaine violence symbolique, etc., ou même la violence des cabinets ministériels. Boris Faure, tragiquement, c'est une personne qui s'est fait agresser par un député ex-La République En Marche, à coup de casque. Hein, donc ce fait divers ne vous a peut-être pas échappé. Mais effectivement, Boris Faure est quelqu'un qui a expérimenté différentes dimensions de la violence politique, y compris une violence très concrète, très physique, qui a laissé des marques, hein, puisque bon, il s'est retrouvé quand même entre la vie et la mort au moment de cette agression. Parce qu'il s'agit vraiment d'une agression, hein, une agression qui dépasse même un petit peu les causes. Donc c'est vrai que c'est quand même assez tragique, mais non, un épisode intéressant avec Boris pour évoquer donc justement les différents aspects de la violence en politique, mais aussi pour finalement conclure sur le fait que la violence n'est qu'un aspect, mais il y a aussi de la bienveillance dans les partis, dans le fait de s'engager, un petit souvenir plus personnel, en tant que grand fan, lui et moi, de Mario Kart, on avait ces deux enfants derrière en train de jouer à la Super Nintendo pendant qu'on enregistrait l'épisode.
Allez, on avance, on passe à la suite. Le 19 février 2020 sort le deuxième épisode de Rue de la Révolution et on y recevait Manon El Asaidi. J'ai bien prononcé ?
C'est ça. Alors Manon, pareil, là on était encore en train d'essuyer les plâtres, hein. c'était nos débuts, donc j'ai invité une personne que je connaissais plus personnellement, qui est une amie. Cette fois-ci, qui est une amie belge, qui est engagée aussi dans l'associatif et dans la politique, du côté du plat pays, qui est aussi dans la vie civile une experte de l'analyse de données et des réseaux sociaux. Donc très bonne aussi coach en ce qui concerne la communication. Et donc on l'avait invitée. Alors c'était encore à l'époque, on était quand même mi-février, mais le Covid, le confinement, tout ça nous paraissait encore loin. C'était quand même encore un épisode convivial qu'on a pu enregistrer à la maison autour d'une bière, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on a dû s'adapter un petit peu, mais on avait invité effectivement donc Manon El Asaidi avec surtout sa casquette donc d'experte de la communication pour essayer un petit peu de comprendre aussi une autre façon de militer, qui est le fait de militer sur les réseaux sociaux et aussi donc toutes les problématiques du numérique sur les algorithmes notamment.
On ne peut pas dire que Tinder est responsable de mettre des gens de la même couleur ensemble, puisqu'au final, il agrège des données et te propose ce que tu préfères. Et donc, c'est en soi tout cet aspect de partir de tes habitudes à toi, en fait. Et là-dessus, c'est pas, tu ne vas pas pouvoir dire que c'est intentionnel d'avoir de leur part, de se dire j'ai juste envie qu'il y ait des personnes d'origine sud-africaine ensemble, des personnes... Voilà.
Ceci dit, qu'est-ce qui me permet de dire que ce n'est pas le cas non plus, puisque ces algorithmes ne sont pas transparents.
Rien ne te permet de le dire et c'est là où est le vice, en fait.
Donc, pour résumer, du coup, ta solution principale, c'est la transparence des algos.
Transparence des algos.
Pour éviter d'avoir le doute.
Oui, exactement.
Voilà, un épisode réseaux sociaux et politiques, deux éléments qui sont quand même globalement indissociables.
Il y a une chose qui est intéressante aussi avec ce podcast, avec Manon El Assaidi, qui a un petit écho dans l'actualité du moment, c'est que on a évoqué avec Manon aussi la manipulation des algos et des idées donc sur les réseaux sociaux, et notamment on est revenu sur les histoires un peu voilà d'affaires Benalla et de manipulation que même la majorité La République en Marche peut utiliser. On l'avait même fait réagir à un extrait de Baron Noir, puisque voilà, en février 2020, c'était la saison 3 de Baron Noir, donc évidemment, on était tous absolument accros à cette superbe série. Il s'avère qu'il y a quelques jours, il y a eu ce qu'on appelle, c'est un grand mot, mais le Schiappa Gate, donc c'est la ministre Marlène Schiappa qui a posté a priori ce qui était une vidéo sponsorisée pour son coiffeur sur Insta, et puis ça a fait un bad buzz, et puis évidemment Schiappa a fait un damage control absolument ridicule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été faite et qui revient un peu sur ce qu'on raconte avec Manon et El Assaidi aussi, c'est comment s'organise sur les réseaux sociaux la manipulation des idées avec des armées de bots, avec les armées de militants. Comment on peut essayer de faire passer un truc faux comme quelque chose de vrai, voilà, vraiment la manipulation sur les réseaux sociaux. Et on a eu voilà récemment dans l'actualité une nouvelle manifestation de ces méthodes discutables, pour le dire poliment.
Si je peux ajouter un truc, si vous voulez en savoir plus, allez voir l'article sur Arrêt sur Image qu'a fait Pauline Bock dessus.
Oui, on salue Pauline Bock, évidemment, oui, tout à fait, qui a fait cet article qui est absolument génial. Ouais.
Alors, un autre sujet de prédilection de Rue de la Révolution, et puis un de tes sujets de prédilection aussi, Mickaël, c'est l'économie, et plus spécifiquement les crises économiques. Et c'est un sujet dont on a parlé dans le troisième épisode du podcast avec Jezabel Coupé-Souberon.
Ouais, Jezabel, c'était aussi une invitée, c'est une amie encore, beaucoup de copinage, non mais c'est vrai que Jezabel fait aussi le lien avec ma démarche, mon engagement, parce que je l'ai peut-être pas dit quand je me suis présenté tout à l'heure, mais en tant qu'économiste, j'enseigne aussi sur les sujets de la finance et des crises financières à la fac, c'est aussi le sujet de mon livre. C'est vrai que mon expertise, c'est voilà l'histoire des crises financières, les marchés financiers, la BCE, tout ça. Et donc Jezabel fait ça aussi, donc c'était un lien assez clair avec le monde voilà comme ça de la banque. Et donc il me semblait intéressant de pouvoir discuter des thématiques de prédilection de Jezabel avec Jezabel, mais c'est aussi des thématiques qui sont chères à mon cœur. Donc c'est vrai que ça a été un vrai plaisir d'enregistrer cet épisode avec Jezabel pour parler finances. Alors c'est un sujet qui est évidemment un peu compliqué, mais qui a tellement d'impact dans nos vies de tous les jours, qui a un intérêt. Là, c'est peut-être ma petite cause personnelle, à le vulgariser un maximum. Et je crois d'ailleurs que c'est là-dessus, c'est l'un des objets de l'extrait qu'on a sélectionné facile.
Tout à fait.
Donc, Jezabel Coupé-Souberan, qui est économiste, elle enseigne à Paris et elle est aussi conseillère scientifique de l'Institut Veblen. On reparlera de l'Institut Veblen, je crois, un petit peu plus tard.
C'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que cet argument toujours éternel du libéralisme économique, sans monter dans sur mes grands chevaux, de voir qu'en fait, il est toujours à sens unique. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à un moment donné, une envie de compétitivité, de respecter les règles du marché avec concurrence pure et parfaite. Mais alors, dès qu'il y a un souci, ça saute. Il faut socialiser les pertes. Il y a vraiment le sentiment comme ça d'un double standard.
Bon, s'il y a bien un des acteurs majeurs du capitalisme qui ne se soumet pas du tout, je dirais, aux règles du libéralisme, ce sont précisément les banques. Hein. Mmh. On en est toujours, en dépit des réformes qui ont été menées depuis la crise, on en est toujours à pile la banque gagne face le citoyen père, bien sûr.
Alors, si je me souviens bien, c'est dans cet épisode-là qu'on a parlé d'hélicoptères.
Ouais, on a parlé d'hélicoptères, on a parlé de drones monétaires. Jezabel y tient, puisque le concept de monnaie hélicoptère est un concept qui existe depuis longtemps. C'était Milton Friedman qui était cette idée de dire les banques centrales, vu qu'elles peuvent imprimer de l'argent, pourquoi elles ne distribueraient pas cet argent directement aux citoyens comme ça, et donc on imagine un hélicoptère qui, au-dessus de la foule, irait jeter des liasses de billets. On peut toujours rêver. Ouais, ou alors on peut rêver ou cauchemarder, parce qu'effectivement, ça pourrait être un sacré bordel, ouais. Et donc, Jezabel a une proposition beaucoup plus smart, qui est non pas un hélicoptère, mais un drone. Comme ça, on peut aller identifier directement les personnes pour aller leur distribuer directement l'argent. Alors, le drone, il serait numérique, évidemment. On pourrait imaginer un euro numérique ou tout simplement un compte bancaire directement auprès de la BCE. Mais l'idée, est dans les grandes lignes, c'est la même, c'est de dire, puisque la Banque Centrale Européenne déverse des milliards et des milliards sur les marchés pour racheter de la dette publique, mais aussi de la dette d'entreprise, pourquoi on ferait pas mieux plutôt que de faire une politique donc de l'offre en aidant les entreprises et les États, en faisant plutôt une politique de la demande et donc en distribuant cet argent-là directement auprès des citoyens. Et ben pourquoi pas, effectivement, c'est l'objet du podcast avec Jezabel. Pourquoi ce serait toujours les mêmes qui se gaveraient, et notamment les banques, surtout quand on réalise que par rapport aux objectifs que les banques centrales se fixent, ces outils-là ne marchent pas très bien. Donc, la proposition de Jezabel a fait beaucoup de sens, effectivement.
Donc ça, c'était en mars. Et puis en avril, on a commencé à ressentir les premiers effets du confinement. Le 27 avril 2020, on recevait Olivier Baudin pour parler économie, écologie et coronavirus.
Alors, Olivier Baudin, là, c'est... C'est vrai que c'est un sujet qui est cher à mon cœur, puisqu'il est notre porte-parole, il est un des conseillers, un des fondateurs de l'association Green Intervention, que j'ai l'honneur et le privilège de présider. Olivier, c'est un économiste, vous allez me dire, mais pas comme Jezabel, dans le sens où Jezabel, elle fait de l'enseignement, elle fait de la recherche, elle écrit des livres, etc. Olivier, lui, était économiste à la Commission européenne. Et aujourd'hui, il est retraité. Donc, sa nouvelle vie de retraité l'a amené effectivement à s'engager, à avoir un peu plus de temps, et donc à avoir un peu plus de temps pour ses causes, et notamment à s'engager alors sur divers projets, et en particulier sur Green Intervention. Green Intervention, qui est donc une association qui est engagée sur, pour la lutte contre le changement climatique et pour la transition écologique et solidaire, qui est en fait une lutte transversale qui a des implications dans un tas de domaines et en particulier économique. Et ce qu'on essaie de mettre en avant avec Green Intervention, c'est que il y a un tas de freins macroéconomiques dans la façon dont l'économie en fait est construite, que ce soit les règles budgétaires, la façon dont on considère les marchés, la concurrence, la croissance, qui fait que cette transition écologique, si on transforme pas ça en sujet économique, on n'y arrivera pas. Avant peut-être de passer à l'extrait, moi, une chose quand même qui m'a frappé avec Olivier, parce que avec l'extrait, on va parler de fond aussi, mais c'est sur la forme. C'est que avec Rue de la Révolution, on est là pour parler des causes de notre génération. Et évidemment, la crise écologique est une des causes de notre génération. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a souvent tendance à inviter des gens de notre génération, ou même parfois plus jeunes, pour parler des causes de notre génération. Et le vrai message d'espoir, finalement, c'est que Olivier nous raconte aussi dans ce podcast qu'il a eu l'épiphanie, finalement, quelques années avant sa retraite. C'est-à-dire qu'il n'était pas spécialement engagé ou conscient de cette cause écologique. Avant, il y a une dizaine d'années, il nous explique notamment que c'est en ayant vu le film de Al Gore, Une vérité qui dérange, qu'il a commencé à réaliser qu'il y avait un lien avec l'économie. Et c'est intéressant aussi dans ce côté fil rouge de voir comment les gens sont arrivés à leur cause, de voir que c'est jamais trop tard, quoi. Enfin, ça peut toucher toutes les générations, même les plus seniors, contrairement à certaines idées reçues, quoi. Même sur des causes qui sont très actuelles. Et ça, je pense que c'est peut-être le message principal de ce podcast, à mon avis. Ouais.
Disons la science économique, il faudrait en faire un petit peu l'histoire, mais ça prendrait peut-être un petit peu de temps. Mais globalement, c'est de plus en plus dissocié de son contexte. C'est-à-dire qu'on a considéré de plus en plus, et ça c'est véritablement lié à l'évolution des modes de production capitalistiques, on a de plus en plus considéré que les activités économiques pouvaient être dissociées, premièrement, du contexte social, du contexte social et aussi du contexte environnemental. J'ai lu récemment dans une histoire de la science économique que les manuels d'économie jusqu'au début des années 50 commençaient toujours avec un chapitre sur l'agriculture. Évidemment, je pense que maintenant, le premier chapitre, c'est probablement sur les questions financières ou sur ça. Donc, si vous voulez, on a complètement renversé l'échelle et on a dit, au fond, l'agriculture, c'est plus très important.
Olivier Bodin, donc ça, c'était le 27 avril 2020. Et puis ensuite, l'épisode 5, il est sorti le 26 mai avec, en invité, Ninon Lagarde.
Ninon Lagarde, en fait, elle s'occupe d'une association qui s'appelle Tous Élus et donc qui est chargée d'accompagner, en fait, les citoyens dans leur démarche de se présenter aux différentes élections locales aujourd'hui, via des aides ou via un programme qu'ils ont, une espèce de mock-up campagne, où en fait ils font une campagne pour du fou, entre guillemets, pour aider les différents candidats dans les différents challenges qu'ils vont devoir avoir, et de l'accompagnement, comme je disais, des candidats de A à Z dans les différentes démarches qu'ils ont besoin d'avoir pour créer leur équipe, créer leur plateforme et être entendus.
Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que. En discutant avec énormément de jeunes éloignés de la politique et en tentant de les y convaincre, toutes ces affaires de politique, il ne faut pas prendre les gens pour plus bêtes qu'ils le sont. On utilise ces affaires pour dire « Non, mais moi, je ne fais pas de la politique, c'est tous des clowns, regardez Balkany. » Et en fait, cet argument, il sert de paravent facile pour ne pas s'engager sur les questions de politique. Mais quand on creuse derrière, à chaque fois, ce n'est pas ça. Les gens savent bien que la plupart de nos politiques ne sont pas comme ça, qui ne sont pas tous complètement dégueulasses. Derrière, s'ils ne s'engagent pas eux-mêmes, c'est pour des raisons bien plus profondes de « on m'a fait comprendre que je n'avais pas ma place, je ne suis pas, je ne ressemble pas à mes élus, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la confiance en moi, etc. » C'est un peu un espèce de paravent, ouais, c'est cette explication de « ils sont tous dégueux ». Je pense que une immense majorité, c'est bien, c'est une minorité qui prend une place médiatique très grande, parfois même trop grande, au détriment du travail que font plein d'élus géniaux et qui n'ont aucune lumière. Je pense qu'ils font du mal, mais que le plus grand mal qui est fait, c'est qu'on fait croire à l'immensité de la population qu'ils sont bien trop cons pour pouvoir être élus et que c'est pas leur place. Et c'est ça qui est plus dérangeant.
Alors, pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec toi, hein, Mickaël, je sais qu'un des sujets qui nous occupe quand on parle de politique, c'est justement cette accessibilité aux postes à responsabilité. Comment se lancer en politique? Comment prendre contact, en fait, avec les réseaux politiques et essayer de s'y faire sa place? Et justement, cette rencontre avec Ninon, bah, ça a été l'occasion de découvrir une nouvelle approche, en fait.
Ouais, tout à fait. Non, mais alors déjà, Ninon, en tant que personne, elle est impressionnante parce que, bon, là, ça ressort peut-être pas sur l'extrait, mais elle est toute jeune. Elle est toute jeune et elle a déjà un parcours militant impressionnant qui me ferait rougir aussi. Et elle a clairement énormément de mérite. Hein. Elle a vraiment la tête sur les épaules. On sent que le discours est bien rodé et puis il est percutant. Et effectivement, son objectif principal, c'est de permettre une meilleure représentativité, c'est d'encourager les jeunes notamment, mais en fait, les jeunes et les moins jeunes, à s'engager en politique et puis de se dire, d'une part, pourquoi pas moi? Tout en, et ça c'était aussi je pense le sel de l'extrait, tout en évitant de faire du tous pourri, parce qu'elle a quand même un message très positif, c'est de dire finalement le tous pourri c'est l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où il y a effectivement quelques pourris sur lesquels on a envie de mettre le doigt parce que c'est plus facile, c'est plus confortable, c'est une histoire rigolote à raconter et ça permet de se déresponsabiliser. Mais finalement, l'appel qu'elle fait, c'est de dire, mais il y a énormément de boulot derrière, d'être élu, c'est pas évident, et que malheureusement, les quelques pourris, en fait, ils sont assez rares, et il faut pas que ça nous serve d'excuse pour ne pas y aller. Au contraire, il y a énormément de gens qui font du bon boulot. Et effectivement, là-dessus, Ninon fait un travail salutaire et on la salue. J'en place aussi une petite sur Ninon Lagarde, puisque une des choses que j'aime beaucoup dans ce podcast, puisqu'on discute de causes importantes, mais en toute décontraction, hein, comme tu le disais, comme si on avait une bière à la main, ou si on a vraiment une bière à la main, parce qu'on a aussi des petits quiz dans ce podcast, et je me souviens qu'on avait fait un sel poivre avec Ninon Lagarde pour savoir si... Christine Lagarde, Ninon Lagarde ou les deux, et on s'était beaucoup marré, elle aussi, elle avait beaucoup ri, donc rien que pour ça, ça vaut le coup aussi de réécouter l'épisode.
Alors, on passe au sixième épisode. C'était le 1er juillet 2020. On a fait un petit break en juin. Enfin, on est arrivé un peu à la bourre. Et on a rencontré pour l'occasion Maxime Fouache. On a parlé engagement associatif et quête de sens.
Bah, Roland, c'est ton pote. Je vais te laisser
bah
faire.
Oui, parce que je vais présenter mes copains. Ça va être plus vite. Alors, en fait, Maxime, il a créé une plateforme qui s'appelle HumanGo avec deux autres de ses potes, Eric Voyon et Maxime Marcandella, qu'on salue aussi. Et donc, du coup, cette plateforme, elle a pour but de supporter, en fait, les associations, donc les organisations sans but lucratif, dans l'optique de les mettre en relation avec la population sous différentes formes. Donc, l'idée ici, c'est de donner du soutien aux associations via des ressources humaines. Et en parallèle de ça aussi, ils fournissent aussi du conseil et des aides aussi directement aux différentes associations en créant... enfin, disons, en répondant différents besoins. Par exemple, s'il faut créer une base de données ou optimiser certaines choses ou créer des dashboards ou des outils de mesure pour les différentes associations.
Moi, j'avais besoin de plus. J'ai toujours eu besoin d'agir, en fait, un peu à l'inverse des mouvements, je trouve, qui sont aujourd'hui de nos pays occidentaux, qui sont plutôt tendance à accepter le monde, à faire partie de l'humanité, etc. Moi, je pense plutôt à avoir besoin d'agir, avoir besoin d'être un impact sur cette transition. Et je me sentais pas suffisamment impactant dans cette fondation. Et mon point, c'est que je voulais être bénévole, mais d'une certaine manière, je l'étais déjà et ça me convenait pas. Et donc, j'avais l'impression que c'était le bénévolat qui fonctionnait pas. Donc au départ, j'ai essayé de réfléchir à comment changer le bénévolat. Et pour moi, changer le bénévolat, ça signifiait être à même de changer la façon dont le monde voit le bénévolat. Parce que je ne crois pas que le problème vienne du fait que quand quelqu'un est motivé, il trouve un endroit où s'investir et il s'investisse. Je crois que le problème vient du fait qu'on a l'impression que c'est très compliqué, on a l'impression que c'est impossible à faire, et donc finalement on ne le fait pas parce qu'il nous semble que c'est trop difficile. Et c'est à partir de ce moment-là où Eric et moi, qui étions tous les deux donc ambassadeurs de cette fondation, Eric et moi, on a décidé de partir sur une entreprise qui permettrait à tout le monde de pouvoir devenir bénévole très facilement.
Alors, un des éléments qui est vraiment super intéressant dans cette démarche, c'est que ça simplifie grandement, en fait, la relation entre, d'un côté, les gens qui ont du temps et qui ont envie de le consacrer à des causes, et de l'autre côté, ces causes, ces associations qui recherchent justement des gens qui sont en mesure de leur fournir du bénévolat pour les aider à progresser et pour les aider dans leur cause, justement.
Ouais, on est encore dans cette idée d'essayer d'enlever les freins. C'est pour ça que c'était un peu méta. C'est pour ça qu'on a voulu inviter Max. C'était finalement, il était tout à fait en lien avec le vrai motto de Rue de la Révolution. C'était d'essayer d'enlever des freins à l'engagement. Et donc, lui, il l'a fait plutôt par la voie de l'entrepreneuriat pour créer voilà cette plateforme qui puisse aider les associations à chercher, à trouver des bénévoles et aider les bénévoles du coup à identifier, à pouvoir picorer comme ça l'engagement par rapport à leurs moyens. À titre plus personnel aussi, cet épisode, même si je les adore tous autant les uns que les autres, a été aussi une bulle d'air puisque c'est un des rares épisodes qu'on a pu refaire physiquement puisque on sortait du premier confinement. Donc on a pu se revoir en vrai et effectivement être autour de la table. Donc c'était un peu plus convivial hein, forcément à enregistrer. Puis un dernier mot sur Max aussi qui lui du coup bossait aussi dans des grosses boîtes enfin comme plein de monde hein, et a décidé de faire préparer sa reconversion avec son projet HumanGo et donc on le questionne aussi un peu sur la quête de sens hein, qui est un peu je dirais le mal de notre génération mais je pense pas que de notre génération c'est d'être un peu coincé parfois dans des bullshit jobs et cette envie de sauter le pas de faire autre chose quelque chose d'un petit peu plus meaningful d'un peu plus grand que soi, c'est effectivement peut-être l'un des autres fils rouges du podcast Rue de la Révolution, je pense, indirectement.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement dans Rue de la Révolution, alors en l'occurrence pas avec le prochain épisode, puisque là on est allé à la rencontre de quelqu'un qu'on entend quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis en politique de manière générale, dans le paysage hexagonal en tout cas, c'est Aurore Laluc.
Ouais, tout à fait, du coup, marraine de la saison 2, quelque part, hein, puisqu'il y a eu le break estival. Aurore Laluc, une combattante, une conquérante au Parlement européen, à côté de qui j'ai eu... à titre personnel, que j'ai rencontré, que je suivais déjà un petit peu via ses engagements précédents, bah, l'Institut Veblen, on en parlait tout à l'heure, j'aurais peut-être dû commencer par là. Aurore est économiste de formation, elle a fondé l'Institut Veblen, qui est un think tank engagé à gauche, qui fait un bon boulot sur notamment les questions économiques pour essayer un petit peu de lutter contre une espèce de bien-pensance libérale, comme quoi il n'y aurait pas d'alternative économique que les lois du marché, etc. Donc elle fait un boulot salutaire là-dessus. Et elle fait de la politique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Aurore Laluc parce que j'étais colistier lorsqu'on était tous les deux candidats aux élections européennes. Et elle a été élue, ça c'est heureux. Et donc on l'a un petit peu questionnée sur la façon dont elle est arrivée à l'Institut Veblen et évidemment sur le Parlement européen, sur ce que c'est d'être économiste, de passer finalement, devenir députée européenne. Et puis elle nous a raconté beaucoup de choses très intéressantes sur l'économie et sur la bataille culturelle. Souvent le lien qui est fait, c'est qu'on a des personnes qui s'intéressent peut-être aux maths, aux sciences, et qui en arrivent à l'économie, et qui par l'économie en arrivent à la politique, hein, parce qu'effectivement les deux sujets sont hautement liés. D'ailleurs, François Mitterrand, qui disait que voilà, après lui, il n'y aurait que des comptables et des économistes. Il le disait avec un peu de bagou, mais de dire qu'effectivement les sujets étaient éminemment liés. Et donc, ce que toi tu nous expliques finalement, c'est que ton arrivée sur la cause a été inversée. C'est une imprégnation politique qui t'a encouragé à faire de l'économie et pas le contraire, finalement.
Oui, parce que j'avais l'impression qu'on nous racontait n'importe quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pour pouvoir te faire ton avis, ton opinion sur un certain sujet, tu as besoin de le maîtriser. Voilà. Et sur les questions économiques, j'avais vraiment l'impression que personne n'expliquait rien et que par contre, on utilisait l'argumentaire économique pour clore le débat, mm-hmm. finalement. Et pour fermer un débat... public et politique. À chaque fois qu'on sortait un argument économique, on lâchait une bombe finalement. Ah oui, vous voulez ça? Ah oui, on aimerait bien. On aimerait bien, messieurs, dames, effectivement, pour voir mettre telle ou telle politique en place, etc. Mais vous comprenez, d'un point de vue économique, c'est pas possible. En fait, et je vais être très claire, hein, à droite comme à gauche. Hein. Mmh. Et donc voilà. Donc si tu veux, c'est ça qui m'a intéressée. Je me suis dit que pour comprendre comment notre société fonctionnait, comment la politique fonctionnait, et pour pouvoir avoir un éclairage et faire ma propre opinion du débat public, il fallait justement aller sur les questions économiques, et pour pas non plus se retrouver tétanisé par certains éléments. Il y avait eu plein de sortes comme ça de poncifs qui sont sortis. Mmh. La dette publique, c'est irresponsable. Il faut la gérer comme un bon père de famille. Les fonctionnaires, oh là là, il y en a trop. Une économie efficace, c'est une économie qui fait la part belle au privé. On a eu une pauvreté du débat intellectuel et politique absolument terrible.
Alors, à titre perso, ce que j'avais trouvé particulièrement rafraîchissant dans cet épisode avec Aurore Laluc, c'est cette façon qu'elle avait d'expliquer que finalement, en fait, c'était important d'être au courant des enjeux économiques, enfin, en tout cas, d'essayer de les comprendre, parce que souvent, on utilisait, en fait, la méconnaissance ou la mauvaise compréhension des enjeux économiques pour justifier une fin de débat, en fait. Et en ça, je trouvais que c'était assez rafraîchissant de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui, finalement, est engagé en politique et parlementaire.
Ouais, bah là, je te cache pas que, sans dévoiler un gros secret, j'éditorialise un petit peu Rue de la Révolution comme je peux. Donc, ça m'a arrangé aussi d'inviter Aurore pour lui faire dire quelque chose que je n'ai pas à dire moi-même, mais que je pense très fort. Donc, de fait, c'était super intéressant d'avoir Aurore Laluc là-dessus. Et effectivement, ce concept de bataille culturelle, il est intéressant parce qu'on a trop tendance à vouloir présenter l'économie comme une science dure, alors que ce qu'on prend comme acquis est souvent en fait basé sur des dogmes, sur des hypothèses de travail qui sont parfois très pratiques pour faire des modèles, mais qui sont de vrais mensonges politiques. Et ça, à gauche comme à droite, et effectivement, Aurore met bien le doigt là-dessus, ça fait partie des choses sur lesquelles elle bosse, et elle bosse bien. Et fatalement, oui, l'économie, la compta, tout ça, c'est pas très sexy, mais heureusement qu'il y a des gens comme Aurore ou d'autres qui font le boulot pour pas se faire intoxiquer par une espèce d'orthodoxie économique. Et en ce qui concerne Aurore, effectivement, oui, on a invité beaucoup d'amateurs, tous nos invités sont brillants, mais c'est vrai qu'Aurore, elle est peut-être un peu plus connue que les autres, puisqu'elle est députée européenne et elle était présidente fondatrice de Veblen avant ça. Et c'est intéressant de voir aussi, c'est une des personnalités qui est vraiment engagée pour le Green New Deal en Europe. Ça aussi, c'est nécessaire. Donc ça, c'est super. Et il y avait eu, je me souviens à l'époque sur Twitter, une petite campagne à un moment donné de « Moi, quand je serai grand, j'aimerais bien être Orlaluc ». Donc c'est bien d'avoir des personnalités inspirantes comme ça. Et j'espère, c'est parce que c'est aussi le but du podcast, que le podcast, en revenant sur le parcours d'Aurore, ses causes, mais aussi sur comment elle est arrivée là, permettra aux auditeurs affûtés, avisés, pardon, de découvrir comment on devient Aurore Laluc.
Roland, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ouais, juste un petit correctif. Quand on dit que les invités précédents étaient amateurs, on dit en termes de parole publique. Pas amateurs dans ce qu'ils font.
Ah non, mais dans amateur, il y a le mot aimer. Hein. Moi, j'ai dit ça sans condescendance aucune. Non, mais tu fais bien de préciser. Mais, bien sûr.
Alors, on parlait tout à l'heure des gens qui ont repris leur vie en main, qui ont décidé de quitter leur bullshit job pour faire quelque chose qu'ils estiment plus valorisant pour eux. Et c'était le cas de Mathieu Le Sen, Michael.
Oui, bah attends, je reprends une gorgée de bière avant de parler de Mathieu Le Sen, si tu me permets. Non, bah, Mathieu Le Sen, c'est un petit peu le rêve d'ado de beaucoup de monde. C'est-à-dire que Mathieu Le Sen, alors lui aussi, il bossait dans la banque, ça vous rappellera quelqu'un. Mais il a décidé de tout plaquer et de monter sa brasserie. Donc oui, effectivement, là, on est sur quelque chose qui a dû passer à travers.
C'est du 180 degrés, là.
Ouais, alors c'est du 180 degrés, mais je pense qu'on est sur quelque chose qui a dû traverser l'esprit de beaucoup de gens. Mais lui, il est allé au bout de ses rêves. Et effectivement, donc Mathieu Le Sen, après une carrière dans la banque, a fondé avec son ami d'enfance, Olivier Dutoit, la brasserie du Pays Flamand, qui est à l'origine de la bière Anosteke, notamment, qui est une des meilleures bières du monde.
C'est pas du tout chauvin comme remarque.
C'est une remarque. Oui, c'est un peu chauvin, effectivement. Et Roland, on peut en dire quelque chose, puisque bon, on est tous natifs de la même ville, donc du nord de la France, Hazebrouck, pour ne pas la citer. Mais au-delà d'Hazebrouck, c'est pas inutile de le préciser, puisque là aussi, c'est un épisode qu'on a fait entre deux confinements, et donc au-delà de l'épisode lui-même, qui est intéressant sur. Alors pas juste parce que on fonde une brasserie, mais aussi c'est une brasserie qui est engagée. Donc Mathieu Le Sen est un engagé de l'entrepreneuriat. Donc en fait, il a une démarche durable et locale sur la production. Il cherche notamment voilà à pouvoir recycler donc les potentielles pertes, à produire son propre méthane pour alimenter ses cuves en énergie. Privilégie des acteurs locaux pour obtenir ses ingrédients, ses matières premières. Il a une structure sociale, une structure de hiérarchie dans son entreprise qui est très très flat. Donc c'est un entrepreneur, mais engagé. Mais là où c'était intéressant aussi de revenir sur les terres natales avec Roland, c'est que c'était une vraie bouffée d'air frais. C'est-à-dire qu'entre deux confinements, on avait aussi une envie de terrain. Donc au-delà de présenter un entrepreneur et on reparle aussi du coup de quête de sens hein, puisqu'il a quitté son bullshit job comme tu l'as dit en introduction Fasquille, nous on a pris beaucoup de plaisir avec Mathieu évidemment de boire une bière mais aussi de pouvoir visiter cette brasserie, de voir un petit peu l'impact qu'elle a sur l'écosystème local et d'aller sur le terrain. Ça c'était une envie qu'on avait avec Rue de la Révolution. C'était de pouvoir se déplacer et là finalement c'est Mathieu qui nous a accueillis dans sa brasserie pour enregistrer l'épisode et c'était un vrai plaisir d'aller voir des entrepreneurs sur le terrain.
Donc la question c'est voilà où est-ce qu'on est ?
Bah écoute tu es en Flandre hein, à quelques mètres près puisque en fait il y a la Lys qui coule derrière donc c'est peut-être la frontière entre la Flandre et l'Artois mais tu es bien dans les Hauts-de-France. Vous êtes au cœur de la deuxième brasserie qu'on a construite puisqu'en fait on s'est installé à Blaringhem non loin d'ici.
Tu ne t'es pas lancé après l'école, après le lycée directement dans la brasserie ? Non. Alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
Eh ben écoute, en fait, j'ai fait des hautes études, n'est-ce pas, dans la banque et la finance, quelque chose qui me passionnait puisqu'en fait, j'avais l'impression de pouvoir contribuer justement à aider l'économie, à aider les entreprises, à les accompagner. Et donc j'ai fait ma carrière en fin de compte dans une banque nationale où là, j'étais un petit peu perdu par rapport aux valeurs. Donc en fin de compte, j'ai voulu donner du sens à ma vie professionnelle et aligner des planètes oblige, mon associé et ami d'enfance, Olivier, avait les mêmes les mêmes soucis alors sur un autre pan d'activité qui est la fermentation. Et du coup on s'est associé assez naturellement autour d'un barbecue un peu arrosé, on a refait le monde et on s'est dit on peut pas continuer comme ça, il faut qu'on soit en phase avec nous-mêmes. Et du coup on a donné notre DEM quelques mois plus tard et on a construit on a créé la brasserie du Pays Flamand. Et puis on est en toute confiance puisqu'on est des amis de longue date, voilà, on s'est connus en 6e.
Ah oui, je connais un peu, ouais.
Ouais, ouais, bah y a des gens comme ça qui lancent une brasserie, d'autres qui lancent un podcast.
Ah, c'est ça, c'est ça.
Chacun son truc.
Je me retrouve aussi beaucoup dans ton parcours. Moi aussi, j'ai été banquier et moi aussi, j'ai trouvé ça complètement avilissant et j'ai cherché à m'en dépatouiller. Est-ce que cette expérience, finalement, t'a servi pour fonder ta boîte?
Oui, oui, parce qu'en fait, je pense que j'ai vu trop d'entreprises, prendre des risques aussi démesurés ou alors prendre des décisions, enfin prendre voilà des stratégies qui n'étaient pas bonnes. Je les ai vues s'écrouler et je peux vous dire qu'en fait, enfin ce qui m'a vraiment perturbé moi dans mon métier, c'est qu'à un moment donné, c'est moi aussi qui appuyais sur le bouton pour rejeter le chèque ou l'effet de commerce qui débitait le compte en trop et avec tout l'impact que ça pouvait avoir derrière, ouais. À savoir une liquidation judiciaire, des licenciements, etc. Donc, c'est ça qui est très dur à porter, en fin de compte. Hein. C'était ce qui était le plus compliqué, de savoir être aligné aussi entre ce qu'on faisait et savoir ce que ça allait générer derrière.
Qu'est-ce qui rend la brasserie du Pays Flamand si particulière ?
C'est le produit avant tout. Le marketing, etc., ça doit venir après. C'est le produit en lui-même et réalisé dans un cadre d'entreprise plutôt libéré. On en parlera peut-être un petit peu après sur le type de management. Mais on veut que les gens se sentent bien et soient aussi pourvoyeurs d'idées. Donc en fin de compte, on est sur une sorte de petit écosystème bien sympa où en fin de compte, on arrive à faire coexister des nouvelles idées sur un produit quand même plus que traditionnel, hein, et on n'oublie pas d'ailleurs de consommer local dans nos appros.
Voilà, et puis je voulais signaler qu'il y avait un petit bonus sur cet épisode, mon cher Michael.
Ouais, parce que j'imagine que beaucoup de nos auditeurs, comme nous, sont amateurs de bière, donc au-delà de l'engagement, donc comment Mathieu est arrivé à fonder sa brasserie, et puis ce qu'il fait de différent avec sa brasserie, on a fait un épisode particulier sur la bière. Hein, quand même.
Sur la fabrication de la bière.
Exactement.
Et puis, dernier épisode en date, c'était le 9e, c'était le 23 décembre dernier, et on a parlé agriculture durable avec Élise Dormion-Rousset.
Alors, Élise Dormion, pour rien vous cacher, c'est une ancienne camarade d'au moins du lycée pour Mickaël, mais moi depuis au moins l'école, qui est aujourd'hui, en fait, elle est agricultrice aujourd'hui dans la même région dont on est natif, donc dans la région du Nord, dans les Flandres. Et elle a une exploitation d'agriculture biologique durable et elle est aussi engagée dans le sens où elle fait partie de la nouvelle équipe de la mairie d'Hazebrouck où elle est aujourd'hui élue au conseil municipal.
C'est vrai que je suis pas militante, mais si je pense que c'est une
partisane, j'entends dans le sens.
C'est une forme de militantisme très. Dans l'action, en fait, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé vraiment l'action et le fait de prouver que c'était possible. Je pense que c'était déjà une manière un peu de faire de la politique, en fait. Prouver que le système que je choisissais et le fait de reprendre la ferme et de faire différemment, c'est une manière, en fait, de faire de la politique,
je pense. C'était une manière, du coup, parce que, du coup, effectivement, ton engagement politique au sens propre du terme, tu l'avais déjà avec cette exploitation. Donc il y avait quoi, il y avait l'envie d'explorer d'autres moyens, d'autres leviers.
En fait, je pense que c'est venu aussi du fait que je me rendais compte que faire des choses à l'échelle d'une ferme c'est très vertueux, quoi. Enfin, d'essayer d'aller au bout des choses, mais en fait, c'est tellement minime si on n'arrive pas à le porter plus loin, porter voilà cette énergie, cette conviction plus loin. Je sentais déjà qu'elle est, enfin, que je devais aller voir plus loin, en fait.
Alors, ce qui était intéressant avec cet épisode, c'est qu'effectivement, c'est pas courant. J'ai l'impression de reprendre la ferme familiale et de complètement changer sa manière de fonctionner. Et c'est ce qui s'est passé avec Elisa.
Ouais, alors là aussi, hein, l'idée, c'était de continuer un petit peu la série sur le terrain. Donc, on est allé voir Elisa. Alors, effectivement, comme Roland l'a dit, on la connaissait déjà depuis longtemps. Moi, cette exploitation, je la connaissais. C'est-à-dire que je l'ai vue à 15 ans. On allait faire du quad dans les champs. À l'époque, c'était encore son père, donc il y avait l'exploitation, et qui était donc une grosse exploitation laitière notamment, mais très industrialisée. Et c'est vrai qu'un des thèmes de l'épisode, c'est justement celui de la transition, hein, puisque Elise a décidé de faire autre chose avec la ferme, avec la bienveillance bien sûr de son père, hein, qui lui a cédé les terres, mais pour faire complètement autre chose. Là où la fierté de son père, et c'est vraiment des sujets de l'épisode, était d'avoir une exploitation ultra productive avec un super rendement, des super machines. C'était vraiment l'idéal des années 70, quoi. Et donc il s'est retrouvé complètement là-dedans. Elise a pris le contre-pied et elle est plutôt dans un idéal très 2010-2020. C'est celui du low-tech et de la production plus locale. Donc elle essaie de faire revenir aussi des semences un peu oubliées, un peu moins standardisées, un peu moins industrielles. Alors bien sûr, j'imagine qu'il faut un petit peu des deux, hein. Elle est sur une production qui est très locale aussi et qui n'est pas destinée à toutes les clientèles, mais en tout cas, elle a une démarche salutaire et beaucoup plus durable, un peu low-tech aussi. C'était assez agréable d'entendre un petit peu ce parcours et de ce que peut être aussi une certaine forme d'agriculture durable pour demain.
Alors, Berru, la révolution, ça continue cette année. Déjà des idées pour les prochains invités?
Ouais, alors à très court terme, on aura sûrement des épisodes virtuels, entre guillemets, en tout cas enregistrés à distance. Sans donner de nom, on a dans les cartons à venir très bientôt un YouTuber célèbre qui fait un travail de vulgarisation sympathique et une ancienne conseillère com de Premier ministre.
Donc, Jamie et Ségolène Royal.
Contractuellement, je ne suis pas capable de parler de Ségolène Royal. Je suis sous embargo, pardon.
Alors, avant de terminer cet épisode spécial de Rue de la Révolution, je voulais vite toucher un mot de ta nouvelle carrière sur Twitch.
Oui, c'est vrai qu'on parle de vulgarisation, ce que j'essaye de faire déjà au jour le jour avec les livres, les articles, enfin, on fait ce qu'on peut, hein. Mais oui, je me suis lancé sur Twitch aussi. Je me suis dit, après tout, Samuel Etienne peut le faire, pourquoi pas Michael Vincent. Non, bon. Mais oui, je vous donne rendez-vous le 24, donc ce dimanche 24 janvier à 18h. On parlera de la crise des subprimes, parce que pour mon premier sujet, j'ai décidé de faire un truc un peu facile, en tout cas que je mettrai sur le bout des doigts, mais on fera d'autres sujets. L'idée, c'est de faire effectivement un live écho pour discuter avec le public en toute décontraction à 18h, hein, à l'heure de l'effet apéro, hein, donc ramenez vos bières.
Cette circonstance.
Voilà, exactement. C'est mon geste républicain, tu sais, pour lutter, pour s'assurer qu'il y ait le couvre-feu, quoi. À 18h, vous êtes tous à la maison, donc tout va bien. Et effectivement, ouais, on parlera sujet finance, sujet économique, alors banque, crise, ça fait un petit peu Bernard de la Villardière, banque, crise, mais non, ce sera en toute décontraction et j'ai préparé des petits quiz, des petits sondages, il y aura moyen pour le public de répondre à l'écrit sur le chat, à l'oral s'ils veulent rejoindre le Discord, c'est aussi dans une moindre mesure, hein, effectivement un prolongement de Rue de la Révolution, mais cette fois-ci encore plus interactif.
Donc Rue de la Révolution, on rappelle, c'est rdlr.faskill.com, et puis pour Twitch, c'est twitch.com/zerovins, si je dis pas de bêtises.
twitch.tv/zerovins, alors le chiffre 0, Vins, V-I-N-Z. Mais sinon, n'hésitez pas à suivre nos Twitter respectifs, @faskill et @zerovins, pour retrouver tout ça, et même un peu plus.
Et c'est la fin de ce 10e épisode Best of de Rue de la Révolution. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller creuser les 9 épisodes sortis l'année dernière, donc sur la politique et l'engagement en politique au quotidien. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur rdlr.fastkill.com. Je vous rappelle l'existence du Patreon si vous voulez soutenir la production des podcasts, patreon.com/fastkill. Et puis nous, on se retrouve donc le mois prochain avec un nouvel épisode de RDLR. Salut Mickaël et salut Roland. Ciao.
À la prochaine.
Ciao.
Un podcast signé Fastkill. Fastkill.com.
Vous êtes fan des années 80? Le son des 80s vous manque? J'ai ce qu'il vous faut. 12 pouces, c'est une mixtape de 2 x 45 minutes où je vous propose de redécouvrir les maxi 45 tours emblématiques de l'époque, le tout accompagné d'anecdotes. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. Together. 12 pouces, c'est tous les mois sur 12pouces.fastkill.com.